Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir Michel Pierre.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de nous retrouver chez Mola pour la présentation donc de votre dernier ouvrage, Le temps des bagnes 1748-1953, que vous publiez chez Taillandier. Nous avions eu le plaisir de vous voir il y a à peu près deux ans, pour un grand ouvrage sur le Sahara, le grand récit. Le Sahara sans frontières. Et ici, au contraire, on est au superlatif des frontières, si on ose dire. On est dans l'enfermement des bagnes, sur une durée de 2 siècles. Donc c'est un énorme travail. Et c'est un travail que vous avez déjà fouillé à plusieurs reprises, à travers plusieurs ouvrages précédents. Alors, il y a eu La terre de la grande punition dès 1982.
Oui, j'ai pris perpète sur le bagne.
C'est ça, hein, on a l'impression, depuis 1982, voilà, ça fait un bail. Et donc, vous y êtes revenu avec La légende noire du bagne, en 1992, chez Gallimard, et puis aussi avec Les histoires des galères, bagnes et des prisons en France, chez Payot en 2002, et puis encore Les dossiers de l'histoire, Le temps des bagnes en 2014, et puis aujourd'hui, Le temps des bagnes, donc, chez Taillandier. Alors, quand on parcourt l'ouvrage qui est une somme, un pavé dans la mare aussi quelque part d'ailleurs, hein, au sujet de la Guyane notamment, mais pas que, quand on parcourt l'ouvrage, on a bien sûr affaire à Michel Pierre, l'historien, mais j'allais dire on est aussi autant dans la géographie, parce qu'il y a une extension quasiment planétaire des bagnes français, on peut le dire. Et il y a également quelques références, bien sûr, au système étranger, à l'Angleterre, à d'autres systèmes aussi pénitentiaires. On a bien sûr affaire à la marine, donc la marine parcourt les mers du globe. Voilà, donc on est autant dans la géographie que dans l'histoire. Et bien sûr, on ne peut que se réjouir que l'ouvrage lui-même comporte une série de cartes, ainsi d'ailleurs qu'un dossier iconographique très riche et très très intéressant.
Merci beaucoup et effectivement d'avoir souligné le lien entre l'historien et les géographes. Et en l'occurrence pour ce livre, effectivement la géographie est importante dans la mesure où on oublie trop souvent dans cette histoire qui reste un petit peu comme une lumière des étoiles mortes dans notre mémoire collective et populaire du temps des bagnes, ce qu'on n'a pas toujours en tête. C'est que cette histoire est liée effectivement à la colonisation et aux colonies. C'est-à-dire que quand les condamnés au bagne, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés, je vous les présenter un petit peu avec quelques images, mais pour donner qu'un aspect, et la carte que vous avez sous les yeux sur l'écran vous en donne une idée, lorsque quelqu'un ou quelqu'une à un moment, parce que ça a touché aussi les femmes pendant une partie de notre histoire, était condamné aux travaux forcés à partir du milieu du 19e et jusqu'au moment du Front populaire. Il partait vers la Guyane ou un moment pour la Nouvelle-Calédonie, mais quand il partait condamné aux travaux forcés, c'est pas le ministère de la Justice ni le ministère de l'Intérieur qui, en quelque sorte, veillait sur lui, mais c'était confié au ministère des colonies. C'est l'administration pénitentiaire spécifique du ministère des colonies, donc c'est une affaire interministérielle, en quelque sorte. Quand le bateau quittait Saint-Martin-de-Ré, la justice, en quelque sorte, se débarrassait de ces condamnés et les confiait au ministère des colonies. C'est pour ça que sur cette carte que j'ai tenté de faire, vous avez un planisphère pénal où j'ai tenté de montrer, alors que tout part à un moment, je vais en dire un mot, sur les bagnes portuaires de France, c'est-à-dire Brest, Rochefort et Toulon. Vous apercevez que à l'Occident, à l'Ouest, vous avez la Guyane, où vous avez eu une structure pénitentiaire avec des condamnés entre 1852 et 1953, donc pendant un siècle, hein, 1953, le terme aussi du livre, c'est le rapatriement de Guyane des derniers survivants condamnés là-bas. Vous avez la Nouvelle-Calédonie qui a fonctionné de 1864 à 1897 et qui est surtout dans notre mémoire liée aux communards, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais vous avez aussi des bagnes totalement oubliées, sauf des archives, par exemple à Djibouti, à Obock entre 1888 et 1891, parce que l'administration française au sens large, détestant ce qui n'est pas réglé ou organisé, voulait des structures pénitentiaires pour les condamnés des comptoirs de l'Inde, par exemple, et de la Réunion. Donc, pour les condamnés de l'Inde, des Indes françaises, comme on disait à l'époque, et de l'île de la Réunion, ben, ils subissaient leur peine à Djibouti, ou alors aussi pour les Africains d'Afrique occidentale au Gabon, qui est présent aussi sur cette carte, avec le cas spécifique en Indochine des îles de Pulo Condor au large de ce qui était Saïgon à l'époque, et qui était pour les condamnés indochinois. Et puis vous avez aussi trois condamnés, ceux-là ils ont coûté très cher à l'administration française, qui ont été envoyés aux îles Marquises entre 1852 et 1854, qui étaient trois condamnés politiques. Et alors vous remarquerez une chose, c'est qu'on va le voir aussi par des images, ce qui effectivement dans cet itinérant géographique que j'ai également fait, on voit que ces lieux de punition sont pour nous aujourd'hui des lieux paradisiaques. Alors je parle en particulier, partir aux Marquises, où à un moment, sous la Révolution, ce sont les Seychelles qui sont un lieu de punition. Et c'est vrai que quand on lit, par exemple, enfin on veut le voir aussi, j'anticipe un tout petit peu, mais et c'est pas à Sylvie que je dirais ça, à elle qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, il y a l'île des Pins, par exemple, est un lieu totalement paradisiaque. Mais quand vous regardez les témoignages des communards, ils ne voient pas, et ça c'est passionnant, l'évolution du regard du reste dans l'histoire, de voir comment nous, ce que nous considérons comme paradisiaque, ne l'était absolument pas en 1873-74. Une plage de sable, des cocotiers, la mer, et tout ça, non, ça ne rend... Le plus terrible, c'est l'exil, c'est d'être loin du pavé des grandes villes. Alors, j'ai donc travaillé sur cette carte. Évidemment, sur la carte de la Guyane, dont on parle un peu dans l'actualité d'aujourd'hui, avec les différentes implantations. Ce qui est fascinant, c'est de voir aussi comment l'administration pénitentiaire du ministère des colonies a tourné autour de multiples installations en Guyane avant de trouver autour de Saint-Laurent-du-Maroni le lieu où le bagne s'est installé, avec également, vous l'avez ici en face de Kourou, les îles du Salut, dont la plus célèbre est l'île du Diable, ne serait-ce que par Dreyfus, qui n'avait du reste rien à voir en quelque sorte avec le bagne, qui relevait d'une autre peine. La Nouvelle-Calédonie, même chose, vous avez beaucoup d'implantations liées à l'administration pénitentiaire. Et puis j'ai voulu aussi, mais je ne veux pas vous surcharger d'images, j'ai voulu également travailler dans ce livre, parce que comme vous le disiez, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Guyane. Et puis à un moment, il y a quelques années, étant en lien avec d'autres univers, j'ai voulu dépasser la Guyane. Et je me suis interrogé sur c'est quoi ce système, comment ça s'intercale, comment ça fonctionne, comment les mécanismes existent entre les condamnés aux travaux forcés, parce que, petite explication juridique en quelque sorte, ceux qui partent en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, ce sont des gens, en général des condamnés, des cours d'assises condamnés à la peine des travaux forcés. On n'en voit pas n'importe qui. Alors, il y a eu, on aura l'occasion peut-être dans la discussion d'évoquer d'autres catégories de condamnés, mais c'est vraiment les plus lourdement condamnés qui partent et qui sont condamnés à la peine
des peines de guillotine commuées en...
Voilà. Alors, par exemple, quelqu'un qui était condamné à la peine de mort et qui était gracié par le président de la République, la peine était commuée en peine de travaux forcés à perpétuité. Donc on partait à vie en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, ce sont des domaines que j'avais relativement parcourus, effectivement, depuis que j'avais pris perpète. Mais j'ai voulu étendre. Et justement... J'ai eu, y compris en archives et dans tout ce que j'ai pu consulter, c'est un peu logique en même temps, mais à ce point, c'était quand même assez bouleversant, le nombre de bagnards condamnés aux travaux forcés en Guyane qui avaient, en quelque sorte, fait leurs premières armes comme délinquants juvéniles et envoyés dans des colonies dites agricoles ou pénitentiaires pendant des décennies et des décennies. D'où cette carte que j'ai tenté de faire, qui n'a jamais été vraiment tout à fait faite et qui mérite d'être complétée. et qui montre les implantations, cette fois-ci en France métropolitaine, de ces colonies agricoles et pénitentiaires destinées à des mineurs. Alors les mineurs qui sont, dans ces, sont confiés à ces structures, après être passés devant des juges, mais il n'y avait pas à l'époque, jusqu'en 1912, des juges pour enfants, donc ce sont des juges ordinaires, qui, selon que l'enfant est considéré responsable ou pas, mais il a quand même commis un délit, s'il est considéré comme innocent, c'est pas pour ça qu'il est libéré. Il est mis dans une structure, alors les noms ont varié, on va garder celui de maison de correction ou d'institution
de redressement,
d'éducation surveillée. Pour les jeunes filles, ça s'appelle préservation. Ça en dit beaucoup hein, sur la société qui préserve du reste les jeunes filles. Et alors comment on ne sait pas faire, on les confie à l'Église. Parce que l'administration publique est terrorisée par la délinquance juvénile féminine. Donc on ne sait pas faire. Donc on les confie aux bonnes sœurs, en particulier à une congrégation qui s'appelait le Bon Pasteur, et dont je raconte ici dans le livre un peu l'histoire. Mais vous voyez, par cette simple carte, sans rentrer dans les détails, combien tout le territoire national était irrigué de ces colonies pour enfants, ce qu'on a fini par appeler des bagnes pour enfants dans les années 30, et qui, effectivement, faisait travailler les enfants dans des conditions totalement indignes. Alors, soit c'était des structures privées, par exemple, si vous étiez propriétaire d'une 50... Je prends un cas, soyons très concrets. Dans les années 1860, par exemple, ou 1840, au 19e siècle, si vous étiez possesseur d'un grand domaine de 30 ou 40 ou 50 hectares, avec une structure pouvant accueillir des jeunes gens, ben, des enfants, des mineurs, à partir de 8-10 ans, par exemple, vous pouviez obtenir l'autorisation d'ouvrir votre colonie agricole, en quelque sorte, et d'utiliser cette main-d'œuvre. Le produit de cette main-d'œuvre vous était acquis en tant que propriétaire, et en plus, l'État versait chaque jour une somme forfaitaire par enfant. Et donc, ça pouvait être rentable hein, dans un certain nombre d'institutions privées, alors soit des privés laïcs, soit des privés religieux. Et sans insister, deux choses qui m'ont frappé dans les archives, c'est que ces jeunes enfants ou ces jeunes gens qui étaient soit dans des colonies agricoles dirigées par des religieux, soit par des laïcs, mais en particulier chez les religieux, il y avait une obsession, et on peut la comprendre quand on connaît le 19e siècle, c'est que ces enfants basculent encore plus dans la délinquance par la pratique du péché solitaire. Alors ça nous semble... Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est de fatiguer les enfants dans leur journée de travail, ce qui fait que le soir, quand ils se retrouvent soit en dortoir, soit en cellule individuelle, ils soient tellement épuisés qu'ils ne pensent pas à autre chose. Alors on se dit, on rêve, alors on revient sur le document, on revient sur le texte, et non, le texte est très clair. Et alors quand les pauvres mômes, parce que là vraiment, on a des histoires de romans, enfin même Victor Hugo n'aurait pas osé par moment, et quand on est je prends à la Grande Trappe par exemple, les trappistes ont pris jusqu'à 200 ou 230 enfants, pour les nourrir, pour les faire travailler et autres. Alors il y a une inspection du ministère quand même, parce qu'il y a de temps en temps des inspections. Il y en a une que j'ai retrouvé le rapport en 1864-65, où le rapporteur du ministère de la Justice élève auprès des trappistes une objection parce que les enfants, la nuit, dorment dans les mêmes vêtements que le jour. Et donc, ils signalent aux trappistes, attendez, il y a un petit problème. Et là, la Grande Trappe leur dit, écoutez, nous, en tant que trappistes, c'est notre régime. Hein, on travaille, on se couche comme ça, c'est la règle. Si vous voulez plus qu'on garde les enfants, vous les reprenez, mais on ne va pas changer. Ce qui fait que le ministère doit à un moment, je retrouvais le texte, produire un texte demandant à toutes ces institutions qui reçoivent des jeunes enfants condamnés qu'il y ait au moins 2 bains chauds par an, et un bain de pied tous les 15 jours. Et j'ai trouvé des protestations en disant « Mais nos paysans à côté, ils prennent même pas un bain chaud par an. On voit pas pourquoi que les enfants en feraient autant. » Donc c'est pas si loin que ça. Nous sommes à 150 ans. Enfin, c'est pas énorme à l'échelle de l'histoire. Et c'est vrai que d'être d'aller sur la répression de la délinquance juvénile m'a fait voir un univers que je soupçonnais pas et que je mettais en lien, parce que j'allais dire mes bagnards de Guyane, quand je regardais leur dossier, la plupart jusqu'à 30, parfois 30% sont passés par les colonies.
C'est des graines de bagne.
C'est des graines de bagne. Ce qu'on retrouve un petit peu dans ce que raconte Jean Genet ou dans un certain nombre de textes de Jean Genet.
Alors, et Belle-Île, la chasse aux enfants.
Belle-Île. Donc, c'est un univers. Alors, c'est assez curieux pour un historien, parce que nous sommes quelques-uns à travailler sur les bagnes Guyane-Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques historiens sur les bagnes militaires. Que j'évoque aussi et qui est une particularité française. J'anticipe un peu sur la femme et on en reparlera. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé à faire ce travail sur 2 siècles et demi. Par rapport à une actualité d'aujourd'hui où on voit que la surpopulation pénale, etc., on s'aperçoit que la France, qui s'imagine toujours payer des droits de l'homme, etc., toujours à la tête ou à l'avant-garde de beaucoup de réformes, et sur ces domaines, totalement en retard et très longtemps. Par exemple, quand on ouvre le bagne de Guyane et la Nouvelle-Calédonie, donc pour la Guyane en 1852-54, l'Angleterre se prépare à fermer l'Australie. L'Australie est fermée par l'Angleterre en 1864 et nous, on va continuer la France en 1938. Pour la justice militaire, et j'en terminerai avec ces exemples, évidemment, l'historien n'est pas un juge, mais simplement, il essaie de voir que là, ce que je trouve dans la situation actuelle par rapport à tout ce qui est la politique pénitentiaire vient de loin. On est mal à l'aise depuis longtemps. Et c'est vrai que quand j'entends un certain nombre de discours pour l'âge pénal des mineurs, voire même de rouvrir Cayenne, ça me laisse rêveur, parce que il valait mieux... à un moment, il a fallu que je revérifie aussi dans les textes. Il valait mieux, à la fin du 19e, être militaire dans l'armée allemande que d'être militaire dans l'armée française. Les codes de justice sont beaucoup plus à l'écoute du militaire pouvant commettre un délit, par exemple dans l'armée allemande, que dans l'armée française. Donc j'ai fait un certain nombre de découvertes comme ça.
Mais il y a un maillage, c'est terrible.
On ne s'imagine pas le travail d'une carte. Seuls ceux qui sont un peu géographes savent ce que peut représenter un travail sur une carte.
Et il y a aussi l'Afrique du Nord, Biribi. Hein,
oui, alors je ne voulais pas montrer, parce que c'est presque un sujet en soi, Biribi. Voilà. Alors dans notre longue mémoire, nous avons gardé des bagnes militaires. Un mot, c'est Tataouine. Et Tataouine, qu'on utilise, tu vas finir à Tataouine ou autre, c'est effectivement, je m'y suis rendu, là, dans le sud tunisien, qui était l'un des lieux où il y avait ce qu'on appelait les bataillons d'Afrique. Mais enfin bon, au total... Quand même, parlons chiffres. Si je reste sur la politique répressive de la justice militaire française, du début du 19e jusqu'aux années encore, disons, 1960, les punitions ou ceux qui se sont retrouvés dans ces différentes structures répressives en Afrique du Nord atteignent des chiffres extravagants. Nous sommes autour de 600 à 700 000. Je dis bien 700 000. Alors parfois, c'est un an, parfois, c'est 2 ans. Et les bagnes coloniaux, c'est 100 000. Donc nous sommes sur des grosses masses, quand même, sur 1 siècle et demi ou 2 siècles. Nous sommes sur des centaines de milliers de Français qui ont connu ces exils à titre divers et sous des juridictions différentes. Donc c'est pas si étonnant ça que cette longue mémoire nous soit plus ou moins restée. Alors je dis... Elle a par contre disparu chez les plus jeunes. Je le vois bien, le bagne ou tout ça, ça dit moins aujourd'hui. Alors tout ça vient, je vais juste en préambule, en quelque sorte, tout commence évidemment avec les galères. Donc très simplement, les galères qui au début, les galériens sont des marins volontaires, mais au bout d'un moment, à Venise comme ailleurs, et particulièrement dans le Royaume de France, on trouve plus de marins volontaires, donc ça va devenir une peine. On est condamné aux galères, par vagabondage, par délits divers, à un moment les protestants, les faux-sauniers, etc., qui se retrouvent essentiellement à Marseille. Et au milieu du XVIIIe siècle, Il va être décidé par Louis XV que finalement les galères ça coûte trop cher et ça coûte trop cher et puis c'est plus militairement très efficace par rapport aux grands voiliers qui sont construits au XVIIIe siècle. Une galère, ça n'a plus de nécessité militaire dès le début du XVIIIe. Ça fait pas le poids par rapport à des hauts navires de 120 canons. Ça n'a plus aucune efficacité. Ça coûte très cher. Et donc il y a une ordonnance de Louis XV en 1748 où on supprime les galères, mais on ne supprime pas la peine des galères. On va supprimer le travail. Parce qu'il faut bien voir comment nous sommes sur une très longue durée de vision chrétienne des choses. Finalement, la peine doit être liée au silence, d'où l'obsession du silence. Qu'on retrouve aussi pour les enfants,
à la petite roquette,
comment pour finalement être en dialogue avec le crime ou le délit qu'on a commis, il faut être comme dans une situation religieuse d'intériorisation de la peine. Et deuxièmement, de même qu'on gagne son pain à la sueur de son front, il faut vraiment peiner
être utile.
C'est Voltaire à un moment qui dit un cadavre ça sert à rien. Donc finalement plutôt que de condamner à mort, il y a même une ordonnance qu'on connaît de Louis XIV et de Colbert qui dit aux différents parlements, aux différentes structures judiciaires de la France de l'ancien régime, arrêtez de condamner à mort, ça sert strictement à rien, on en a besoin pour les galères. Bon, donc là, on arrive en 1748, on supprime les galères, mais on va garder la peine, et là, ça va être la période des bagnes portuaires. Donc à Brest et Rochefort pour l'Atlantique, et à Toulon pour la Méditerranée. Et cette période des bagnes portuaires, celle que nous connaissons, où il y a un texte magnifique de Victor Hugo au début du Misérable, qui montre comment ces forçats condamnés aux travaux forcés vont partir vers Toulon avec ce qu'on appelait la chaîne. Alors la chaîne, vous avez une idée dans cette gravure contemporaine des années 1830. Les condamnés sont rassemblés à Bicêtre, à Paris, et vont partir vers les bagnes portuaires dans une espèce de carnaval invraisemblable. Vous avez les condamnés, vous les voyez là, un jeu d'insultes, d'injures entre ceux qui partent et le public qui se rassemble. Si vous relisez le début des Misérables de Victor Hugo, il y a des pages magnifiques sur le passage de la chaîne, quoi, avec les enfants.
Et l'attractivité morbide.
L'attractivité, parce qu'on les fait partir le matin, c'est un peu comme quand on guillotinait autrefois, on le faisait très tôt le matin, on les fait partir, parce que sinon, c'est des émeutes. Parce qu'on connaît plus ou moins des criminels, parce qu'il y a eu des feuilles volantes, on a distribué, il y a eu des chansons sur eux, alors on voit en particulier l'attrait morbide du curé pédophile, par exemple. Le curé qui a coupé une petite fille en morceaux, etc. Alors on connaît plus ou moins. Alors on se repasse. Et lui, il passe là sur les charrettes. Donc ce sont des. Alors ils mettent plusieurs semaines à descendre à Toulon, à Brest, à Rochefort, dans lequel ils travaillent. Alors là, c'est l'imagerie du forçat avec son boulet, sa chaîne, travaillant dans les arsenaux. Ou ici, les conditions de détention. Ces gravures sont très intéressantes. Elles viennent de la bibliothèque de Rochefort. Il y a eu un forçat qui s'appelait Clémence, et le directeur du bagne a proposé à ce forçat qui savait dessiner de faire, et il obtenait une réduction de peine, de raconter la vie quotidienne du bagne. Donc si vous regardez sur les écrans, vous voyez un peu cette vie quotidienne dans ces grands dortoirs, c'était soit à Brest ou à Rochefort que vous avez ici. Alors les dialogues des forçats, la manière dont ils dormaient le soir. Puis vous avez même au fond de l'image deux qui tentent de s'échapper. Vous voyez une corde dans le fond. Vous avez vous en avez un qui est sur une tinette, etc. Donc cette vie de groupe, cette vie de grand dortoir, on va la retrouver plus tard. Le plus tard en question, c'est le milieu du 19e. De même qu'on avait mis fin aux galères, en 1852-53, on considère que les bagnes portuaires coûtent trop cher. De même qu'on avait trouvé que les galères coûtaient cher, on trouve que les bagnes de Brest, Toulon et Rochefort, ça coûte vraiment cher pour nourrir les bagnards. En plus, ils ne cherchent qu'à échapper au travail, ce qui est un peu normal. Et à un moment où, en plus, l'exode rural fait qu'on peut trouver des travailleurs libres pour moins cher. Donc on va se décider petit à petit à fermer les bagnes portuaires. Et troisième élément, on considère que cette concentration de condamnés, c'est contagieux. Donc ça peut contaminer la population libre. Et là, on va avoir l'idée de débarrasser le sol national et de les faire partir. Mais les faire partir où ? C'est ce que je cherchais en archive. Parce qu'en 1852, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, qui est prince-président, il n'est pas encore empereur, réfléchit à la question de vider les bagnes portuaires. Si vous avez un peu une idée de l'histoire coloniale de la France, en 1852, il n'y a pas beaucoup de territoires encore contrôlés par la France. Il y a les Antilles, il y a la Guyane, Antilles-Guyane, il y a la Nouvelle-Calédonie, mais c'est tout récent, il y a les cinq communes du Sénégal, il y a l'Algérie, et il y a un petit peu l'Indochine, mais à peine, hein, c'est à peine effleuré, c'est pas encore. Donc, on va pas prendre l'Algérie, parce que c'est déjà décidé que ce sera une colonie de peuplement libre. Les Antilles, c'est des îles un peu petites. La Guyane, c'est grand, c'est vaste. En plus, n'oublions jamais que l'abolition de l'esclavage en 1848 a fait, même si c'est inconscient, même si on ne le trouve pas consciemment écrit, qu'après tout, on a supprimé l'esclavage des Noirs, mais après tout, avoir des travaux forcés de condamnés blancs, pourquoi pas, dans certaines... D'où la Guyane. Alors après, c'est toute une mythologie qui se construit. Là, ce que je vous montre, c'est plus près de nous, c'est entre les deux guerres mondiales, le départ des bagnards de Saint-Martin-de-Ré, qui fait l'objet de que ce soit toute la presse de l'époque, hein, police, magazine, détective, mais les grands quotidiens aussi. C'est comme ce qu'on appelle un marronnier dans la presse, ça revient régulièrement. Dès que les bagnards vont partir pour la Guyane, eh bien, on fait des reportages. C'est pour ça qu'on a des images, on a des photos, même si c'était interdit. On a même des films. Alors ça, c'est l'un des navires mythiques qui s'appelait le Martinière. Et là, voilà, c'est forçats qui partent, en général, pour un exil définitif. On aura peut-être l'occasion
d'en parler. Au-delà de 8 ans de travaux forcés, ils sont relégués à vie, quoi.
Il y a ce qu'on appelle dans la loi le doublage. C'est-à-dire, si vous étiez condamné à entre 5 ans et 8 ans de travaux forcés, vous deviez, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie à un moment, effectuer l'équivalent de la durée de votre peine comme travailleur libre sur place. Par exemple, vous étiez condamné à 7 ans de travaux forcés. Vous faites vos 7 ans de travaux forcés en Guyane et vous devez rester 7 ans dans la colonie. Mais on ne vous paye pas le retour. Et comme il n'y a pas de boulot sur place, vous ne pouvez pas... et qu'évidemment, quelqu'un qui veut faire travailler des personnes en Guyane, il va plutôt se faire affecter par l'administration pénitentiaire des condamnés en cours de peine qui coûtent moins cher que de prendre quelqu'un de libre. Donc bon, n'insistons pas sur la condition effroyable des libérés. Mais plus gravement, en quelque sorte, si on était condamné à plus de 8 ans, ce qui arrive souvent, à 10 ans, par exemple, de travaux forcés, on fait 10 ans. Comme on est libéré, si on n'a pas fait de ceci ou cela, mais là, on doit rester à vie.
Oui.
Donc c'est quand même un système d'élimination civique, délibéré. Pas un camp de la mort non plus. C'est pour ça qu'il faut pas... C'est compliqué. Il ne faut pas mélanger les choses. Ils sont astreints aux travaux de la colonie, mais on les envoie pas pour mourir. On trouve beaucoup de textes, par exemple, qui se désolent du taux de mortalité dans les bagnes, mais j'ai trouvé plusieurs textes qui disent, bon, d'accord, les forçats qui sont en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, mais dans des moindres proportions, ils meurent. Mais après tout, des soldats français qui participent à la gloire de la plus grande France, ils meurent aussi. Donc un bagnard qui meurt en Guyane, il meurt pour la France. Donc en quelque sorte, il gagne son paradis, mais il revient dans la communauté nationale parce qu'il a en quelque sorte, alors là c'est conceptuel bien sûr, participé à l'œuvre colonisatrice de la France. Donc on n'est pas dans le cas, c'est souvent des confusions qui sont faites, dans le cas ni du goulag, ni a fortiori bien sûr, des camps d'extermination allemands. Ils meurent, mais... il meurt à la tâche, en quelque sorte, et une tâche pour la plus grande gloire de la France.
Et il y a toujours une double intention aussi, à la fois de punir, mais aussi de coloniser, c'est-à-dire de peupler. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, c'est très net, sans doute plus qu'en Guyane. Il y a vraiment une colonie de peuplement, et on pense qu'en les faisant rester libres, ils vont fonder des foyers, ils vont avoir une concession, cultiver, et que tout ça va développer finalement le territoire. C'est aussi ce rêve de développement colonial.
Alors, ça a été un rêve qui a fonctionné. Vous avez tout à fait raison pour la Nouvelle-Calédonie, où on a aujourd'hui, où les descendants d'anciens bagnards peuvent représenter entre 20 et 30% de la population. Donc, ils ont fait souche. Et parce que, pour poursuivre ce qu'on disait, une fois que celui qui doit rester à vie a fait ses 10 ans, il peut se voir attribuer, s'il a une bonne conduite, une concession de terre et devenir un colon libre. Ça a relativement échoué en Guyane, mais en Nouvelle-Calédonie, ça a marché, vous l'avez vu aussi. Ces condamnés se retrouvent dans des cases à 60 ou 50 rassemblés. Ce qui vous explique aussi que beaucoup de délinquants sévères, en quelque sorte adultes, et vraiment dans le crime ou le vol, préféraient partir en Guyane que de subir leur peine en maison centrale. Parce que là, dans une case de 50, le vrai caïd, il prend le contrôle. Et il peut préparer son évasion. Et vous avez un taux d'évasion plus important en Guyane, voire en Nouvelle-Calédonie, que dans une maison centrale. C'est pour ça que passer devant une cour d'assises avec un casier judiciaire important, pour un vrai truand, partir comme ça, c'était mieux que d'aller en centrale. Et vous voyez l'architecture telle qu'elle est, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou ici, la Guyane correspond à peu près à cette architecture coloniale de ces structures, parce que c'était des hôpitaux, des casernes vraies ou des camps pour les condamnés aux travaux forcés, ça ressemble vraiment. Alors, petit, et qui rejoint ce que vous dites, en Nouvelle-Calédonie, dans la commune de Bouraille, par exemple, vous avez un cimetière musulman, vous avez une petite mosquée, ce qui en Nouvelle-Calédonie peut sembler un peu étrange, mais qui sont tout simplement des descendants d'Arabes, Kabyles, Algériens, Marocains, Tunisiens, envoyés en Nouvelle-Calédonie, qui ont fait souche, qui sont encore présents, qui animent la vie politique locale, et qui ont une... C'est un petit détail, mais je suis allé un peu par hasard aux courses hippiques à Nouméa. Eh bien, ceux qui ont amené la culture du cheval en Nouvelle-Calédonie sont des condamnés d'Afrique du Nord. Qui aujourd'hui, les trois écuries qui existent à Nouméa, je ne sais plus, mais c'est Ben Messaoud, etc. Et ce sont des gens qui ont aujourd'hui le maire de Bouraille. Et comme ça, vous avez... Alors, en même temps, vous avez des choses curieuses dans ce cimetière musulman de Bouraille. Vous voyez une sorte d'acculturation du mode d'inhumation. Parce qu'un cimetière musulman n'a pas ces plaques comme ça pour Yahya et Fatma Abdelkader. Donc l'influence, il y a une capillarité des cultures, même si l'islam est resté extrêmement présent donc en Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez, et c'est pour ça que j'insistais précédemment sur ce côté colonial de cette histoire des bagnes coloniaux, en Guyane, cette fois-ci, à Saint-Jean-du-Maroni, donc à plusieurs heures de pirogue sur le Maroni de Saint-Laurent, eh bien, vous aviez un camp de Vietnamiens que le ministère des colonies avait transporté de Saïgon, de Poulo-Condor jusqu'en Guyane. Je me suis rendu compte que le ministère, parce que c'est des colonies, puis on contrôle la mer, adorait faire passer... Pourtant, c'est un peu faire partir d'Indochine pour installer des condamnés en Guyane. C'est toute une histoire. Mais il y a une plaque. Alors elle a peut-être été aujourd'hui, parce que ça va très vite, mangée par la végétation. Parce que vous voyez, elle a été installée en 2011 dans un endroit complètement presque inaccessible. Et nous sommes 6 ans après. Mais c'est pour vous donner une idée et qui rejoint la carte du début. Et puis parfois, c'est un petit détail, mais il m'amuse beaucoup. On parlait des communards en Nouvelle-Calédonie. Dans l'église de l'île des Pins, de la ville de Vao, l'église a été pour partie, non pas construite, mais aménagée par des communards qui étaient ébénistes, qui ont fait ce plancher. Ils se sont amusés avec des signes de la franc-maçonnerie. et que le curé n'a pas dû voir, hein, qui existe toujours aujourd'hui, qui est classé, heureusement. Alors, il y a certes le cœur avec la croix au milieu, mais qui est entouré de tout un ensemble de symboles maçonniques que les communards ont dû quand même s'amuser à faire en se disant, tiens, il nous fait bosser le curé du coin, quand on connaît l'anticléricalisme des communards qui s'y trouvaient. L'île des Pins des communards en Nouvelle-Calédonie, et quand vous avez les textes, nous, on y va demain, mais c'est l'horreur pour certains d'entre eux. On a des textes. Alors, Louise Michel, non, puisqu'on en parlait.
Louise Michel, elle s'est relativement plus. Oui.
Elle a vu la beauté de la nature.
Elle a instruit les enfants aussi.
Elle a instruit les enfants, mais alors j'ai des témoignages de communards qui étaient sur cette île, qui à un moment même ont pu fabriquer des petits journaux locaux. Et le journal local s'appelle, par exemple, Le Petit Parisien. Et il y a des chroniques de théâtre, mais la seule référence, c'est Paris. Il n'y aurait pas un truc sur la pêche locale ou sur un coquillage, c'est même pas pensable. Donc avec... Bon, ça, ils ne le voient pas. Il faut se dire que, bon, nous, on voit, mais eux, ils ne voyaient pas. Alors, la Guyane, c'est pas la même chose. Ça, c'est ceci ou ceci. Donc là, c'est... Alors, bon, là, vous avez une idée aussi de la végétation. La photo de gauche, je l'ai prise à l'île Saint-Joseph, qui est l'une des îles du Salut, en face de Kourou. Et ce que vous voyez sortir d'une ancienne cellule, c'est un arbre qui sort et qui se répand avec ses racines à l'extérieur. Et pour vous donner une idée, ces cellules, elles ont arrêté de fonctionner au début des années 1950. Donc en quelques décennies... Alors là, maintenant, on les maintient, parce que c'est classé. Mais vous voyez, la végétation, on a une idée. La mer n'a pas la même couleur en bas à droite, parce que c'est l'Amazone, en quelque sorte. Donc ce sont des alluvions. C'est pas tout à fait... C'est partir Partir en Nouvelle-Calédonie, malgré tout, parce que c'est pas tout à fait la même chose... que de partir en Guyane. Alors c'est vrai que certains des condamnés de Nouvelle-Calédonie ne le voient pas, mais d'autres le voient. Et à un moment, on va considérer qu'envoyer des condamnés en Nouvelle-Calédonie où le taux de mortalité est extrêmement faible, ou quand même le climat est profitable éventuellement, c'est pas convenable. Donc on va fermer la Nouvelle-Calédonie et rouvrir la Guyane pour ne plus y envoyer que les condamnés. Parce que là, on est dans des conditions sérieuses pour envoyer des condamnés. Alors voilà la vie quotidienne. Vous voyez, c'est pour ça que j'insistais sur la différence avec aussi les camps de la mort ou voire le goulag. On est dans des chambrées. C'est ça, la vie quotidienne de forçat. Ça, c'est peint par un bagnard. Il y a quelques effets personnels sur les côtés. On joue aux cartes au milieu du couloir. On discute. Il est interdit, évidemment, de jouer aux cartes ou de fumer, mais personne ne respecte la règle. C'est une sorte de vie assez étrange quand on plonge dans les archives et les témoignages, où les condamnés et les gardiens... Je prends qu'un exemple. La présence des Corses, je ne sais pas si certains sont Corses parmi vous, j'ose pas trop, mais il y a quand même une surreprésentation de gardiens corses et une surreprésentation de condamnés corses. Parfois du même bled, du même village, mais j'exagère absolument pas, et qui dialoguent en corse. Et donc, évidemment, on n'est pas dans la même relation de répression que dans d'autres lieux, avec un trafic dans tous les sens. Alors,
en même temps, il y a une diversité de conditions. Saint-Joseph et justement ce que vous venez de montrer, ça n'a rien à voir, hein, sans parler de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des conditions extrêmement variables et ça peut coûter la vie aux condamnés.
Soit vous êtes dans des conditions comme ici, c'est-à-dire en chantier forestier, où vous coupez des arbres, vous les traînez, etc. Ça, c'est pour un peu les incorrigibles, les condamnés qui sont les dévénards, comme dit l'un d'entre eux, quoi. Ceux qui n'ont pas ni l'argent pour essayer d'obtenir un poste ou qui se font remarquer. Eux, là, c'est le bagne. Là, quand on est dans les chantiers forestiers, ça l'est. Mais sur les 1200 condamnés que vous avez à peu près, hein, en permanence, avec l'arrivage annuel, vous avez exactement ce que vous dites. Ceux qui ont des métiers repérés, par exemple ceux qui sont spécialistes en électricité ou bien ceux qui sont chaudronniers ou autres, eh bien, ils vont trouver un boulot qui était le leur d'avant. les manœuvres vont se retrouver dans ces chantiers où, évidemment, là, le taux de mortalité est plus fort. Et puis, ceux qu'on veut particulièrement surveiller, ça aussi, c'est une peinture d'un forçat qui représente les îles du Salut, l'île du Diable, l'île Saint-Joseph, l'île Royale. Et là, on y met les vedettes de corps d'assises, ceux qu'on veut être sûr qu'ils ne s'évadent pas. Alors là, c'est une condition... Là, le climat est relativement supportable, mais c'est une vie insulaire. Alors, ils sont pas, les conditions de vie en question de travail ne sont pas non plus monstrueuses, mais c'est...
Oui. Et ce qu'on découvre aussi à la lecture, c'est le côté architectural de cette espèce de vision de la réclusion. On voit la petite roquette, par exemple, c'est un exemple...
Pour les enfants.
Oui, pour les enfants, un exemple limite, quoi, d'ambition panoptique, de surveillance centralisée, etc. Mais à Saint-Joseph aussi, on voit ces cages sans plafond, surveillées par une passerelle qui les surplombe, surveillées jour et nuit. Enfin, c'est aussi une espèce de cauchemar architectural.
Pour illustrer ce que vous dites, là, la photo de gauche là, qui montre ces cellules, il faut imaginer que ce sont des... Alors, il y a un grand auvent au-dessus de ces cellules qui n'existe pas. Plus aujourd'hui du fait de l'état un peu ruiné des bâtiments. Et vous avez une grande passerelle centrale, parce que là, vous avez une cellule, mais de l'autre côté, vous avez la même cellule. Et entre les deux, vous avez les gardiens qui passent et qui regardent en bas, à droite et à gauche, hein, faut s'imaginer, comme des cages, et qui surveillent les condamnés. Mais ça, c'est pas le bagne ordinaire. C'est ceux qui ont été... C'est le mitard, en quelque sorte. C'est ceux qui, à l'intérieur du bagne, ont été condamnés. Alors bon, voilà la diversité des travaux. Je n'insiste pas. Ou là, l'île du Diable, où se trouvait Dreyfus, on peut y rester. Hein. Il y a un hôtel, maintenant. C'est très, très... Mais alors, évidemment... Bon, Dreyfus était dans de bonnes conditions. C'est très étrange à regarder, du reste, en archive, par rapport à... Quand je dis de bonnes conditions, il n'était pas condamné, lui, aux travaux forcés. C'est une peine qu'on appelle la déportation en enceinte fortifiée. Il n'est pas astreint au travail, lui comme d'autres après lui. Il est surveillé en permanence, mais il peut, par exemple, recevoir à peu près ce qu'il veut, question... compléments alimentaires ou boissons. Ce qui fait que, regardons dans les archives, on se rend compte que Dreyfus, à l'île du Diable, il boit du sauterne. Alors ça fait bizarre. Mais tout simplement, c'est vrai, parce que sa femme restée en France et autour envoyait par Félix Potin des quantités, des boîtes de conserve, du vin, de l'eau, à Dreyfus. Et alors, c'est là qu'il y a aussi quelque chose qui est parfois où les historiens se trompent un peu. Les gardiens de Dreyfus, ils ne sont pas spécialement antisémites. Il n'y a rien dans les documents d'époque qui tendent à le montrer. Par contre, ils voient ce type qui est un traître pour eux. Ils ne savent pas, en plus. Ils ne savent pas qu'il est innocent, évidemment. Ils ont à garder Ben Laden. En gros, quoi. Si on fait une comparaison, c'est ça, quoi. Un monstre qui avait vendu le frein du canon de 75 aux Allemands, quoi. Enfin bon, ça, c'est pas possible. Et qui, en plus, boit du sauterne et bouffe en un mois le double du salaire du gardien, ça explique des crispations qu'on trouve dans les textes. C'est pas du tout que Dreyfus ait été de telle ou telle confession. Ça se trouve absolument pas dans les textes. Mais la crispation des gardiens et le fait, parfois, qu'ils ont une surveillance un petit peu acrimonieuse, c'est plutôt ça. Alors, il reçoit des livres, il peut correspondre. Il n'est pas dans les mêmes conditions que les condamnés aux travaux forcés. Et alors, autre exemple de la construction parfois de légendes. Quand on est aux îles du Salut, les forçats ne peuvent pas être enterrés. La surface des îles est trop faible. Donc ils sont inhumés. On a quand même beaucoup de témoignages sur les forçats inhumés ou dans l'eau qui pouvaient attirer ce type de bestioles.
Mais au départ, c'est une tradition maritime.
Exactement. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que vous le voyez sur cette peinture aussi d'un bagnard, c'est une tradition maritime. C'est pour ça que c'est le ministère de la Marine et des Colonies dont on parlait. C'est-à-dire un forçat qui meurt, on va au large, et vous voyez, on salue, un dernier salut du surveillant militaire. Le corps est inhumé...
Dans un cercueil, d'ailleurs.
Un cercueil coulissant. Hein.
Oui, voilà.
Il est dans un sphère, et avec une pierre ou une pièce de fonte, pour exactement comme un matelot mort en mer. Mais aujourd'hui, quand vous allez, ou si vous avez l'occasion d'aller aux îles du salue, commence à naître chez des commentateurs ou de ceux qui font le faire en catamaran, le tour des îles, etc. C'est une nouvelle légende qui deviendra dans quelques décennies la vérité, où on vous explique que le condamné est jeté du bord de l'eau, quoi, comme une charogne.
Mais donc dès les années 60, on voit ça dans des documents INA, vidéo,
Non, c'était pas ça, mais ça devient. Alors on le raconte. Alors, m'est arrivé d'essayer d'expliquer que c'était pas ça, mais ça, vous vous faites mal voir, parce que c'est quand même plus fort pour le visiteur de construire un truc où on balance un cadavre comme une charogne au bord de l'eau que d'avoir un minimum de rites comme ici. Ce qui illustre exactement ce que vous dites, ben voilà une corvée ordinaire de bagnards. Alors c'est pour ça qu'on a des textes où Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne étaient les villes les plus propres de France, parce que c'est ce que raconte Albert Londres. Dès que vous aviez un brin d'herbe qui poussait, vous aviez trois bagnards qui l'enlevaient. Et puis alors de temps en temps, ce qui est le plus fascinant pour moi, c'est ce qui reste souvent en pleine forêt, que ce soit aussi en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, vous avez des escaliers qui mènent évidemment plus nulle part, parce que l'escalier, c'était la seule chose qui était en pierre par rapport à des constructions en bois ou parfois en tôle qui ont été enlevées. Donc vous avez les seules ruines vraiment importantes comme ça qui peuvent rester. Toutes les mythologies de l'évasion. Ça, c'est la presse populaire de la fin du 19e, hein, l'attaque des requins, etc.
C'est vrai que le Maroni est frontalier, donc on se demande aussi pourquoi on a installé tout ça à la frontière de la Guyane, parce que la tentation était d'autant plus grande de traverser le fleuve pour aller en pays étranger.
En Guyane hollandaise, la Guyane hollandaise rendait les condamnés qui s'évadaient.
Et comme le Venezuela aussi.
Oui, ce qui s'est passé, c'est que, comme la carte le montrait au début, et pour répondre à votre question, c'est que l'administration a tenté plusieurs implantations en Guyane. Et à un moment, on s'est dirigé vers le Maroni, parce que sur le Maroni, mais côté Guyane hollandaise, il y a un colon hollandais avec des agriculteurs allemands venant du Württemberg, se sont installés dans une ville qui existe toujours, qui s'appelle Albina, qui était le prénom du reste de la fille de ce colon d'origine hollandaise. Et dans cette ville d'Albina, le colon en question avait réussi son agriculture, avait réussi un village, en quelque sorte, de 100 à 200 personnes. Donc on trouve dans les textes l'administration française qui regarde ça et qui se dit, quand même, si un colon hollandais avec des Allemands réussit un village agricole de l'autre côté du fleuve, de notre côté à nous, Français, avec les centaines de condamnés qu'on a, on va réussir. Donc c'est l'idée de Saint-Laurent-du-Maroni. Il n'y avait rien avant qu'une ville qui a aujourd'hui 40 000 habitants, 50 000, ne soit créée. Et pour terminer, donc simplement notre mémoire de cet univers, hein, Chéri Bibi, Papillon, le film après le roman, il est question, parce qu'ils m'ont interrogé récemment, du reste que les Américains fassent un Papillon 2, c'est-à-dire un remake du premier film. Je ne sais pas si ça se fera, hein, ça fait partie des projets hollywoodiens, mais ça commence. Alors, ça Papillon et l'histoire d'Henri Charrière et pourquoi ça devient un best-seller, ce serait un autre sujet. Mais c'est vrai, tout ça pour souligner que dans ce livre, j'ai accordé une grande place au rapport de la culture au sens large avec le système pénitentiaire, c'est-à-dire le roman, les feuilletons, la télévision, le cinéma, etc. Et pour terminer, puisque vous en parliez, je reviens sur les enfants. Avec ce qui a été la prison de la Petite Roquette, où là, ça a été un... Quand je vous dis que la France est parfois en retard, plus personne, quand on ouvre la prison de la Petite Roquette en France en 1839, plus personne en Europe ne retient la solution d'enfermer les enfants dans des cellules individuelles, dans le silence et sans aucun contact avec d'autres enfants. C'est-à-dire ils ont 12 ans. Ils sont condamnés au silence et quand ils vont dans l'une des petites cours de récréation qui a là, quand ils ont à croiser d'autres détenus, d'autres jeunes détenus, soit ils sont séparés par des murs. Par exemple, quand ils assistent à l'office ou à la messe, ils sont dans des cases, dans des cellules qui ouvrent seulement vers le prêtre, mais ni à droite ni à gauche. Et parfois, on leur met des capuchons sur des cagoules pour pas qu'ils puissent en quoi que ce soit. Donc les mômes, ils deviennent d'une part complètement cinglé, et d'un point de vue de la santé mentale et la santé physique. Et alors, petit à petit, on va, grâce à l'impératrice Eugénie, du reste, la femme de Napoléon, alors ça c'est une de mes surprises, la femme de Napoléon III, l'impératrice Eugénie, s'est passionnée pour ces problèmes. C'est grâce à elle que la prison de la Petite Roquette a été fermée et les enfants ont été dans des conditions un tout petit peu meilleures, et je dis bien un tout petit peu, et c'est elle qui a aussi, à un moment, considéré qu'en Guyane, c'était quand même un petit peu excessif. Mais on a remplacé ça, mais quand même, pour éviter les dortoirs dans lesquels les enfants pouvaient, à plusieurs, avoir de mauvaises mœurs, eh bien, on a quand même repris le système dit des cages à poules. Et ça, c'est une photo des années 1930, un siècle plus tard. Vous aviez le même système près d'ici pour les filles à Cadillac. Dans le château de Cadillac, vous retrouvez ce même système. Donc là, on enferme les enfants la nuit avec une discipline toute militaire. Et puis, ça conclut cette petite présentation, et puis on va continuer d'en parler. Mais les enfants commencent déjà à casser les enfants et adolescents à casser des cailloux. Par exemple, la colonie de Maitrey, c'était l'une des plus connues que Jean Genet a également fréquentée. Eh bien, on est, c'est déjà du travail forcé pour. Alors, oui, bonne remarque. Il y a normalement une scolarisation. Normalement, il est prévu qu'un instituteur intervienne, mais dans les textes, normalement. Parce que le propriétaire privé, par exemple, dont je parlais, qui va, tel ou tel, hein, parce qu'il y en a eu des dizaines à travers la France, qui va se voir l'autorisation de créer une colonie pénitentiaire, il va avoir ses 200 ou 250 mômes, personne ne va pratiquement jamais vérifier qu'il a un instituteur avec lui, où il va considérer que tel gardien, par exemple, j'ai trouvé des textes d'actu, tel gardien qui a plus ou moins fait des études primaires, bah, va faire l'école aux enfants. C'est dans les textes, mais il y a une chose qui est très frappante dans tout ce que j'ai pu retrouver, en particulier pour les enfants, en fait, je résumerai d'une formule. Finalement, la justice est la fille aînée de la lutte des classes. Et on le voit très bien pour les enfants. L'obsession des textes, c'est qu'un môme condamné, ayant agi avec ou sans discernement et devant attendre sa majorité avant d'être libéré, l'obsession des textes et des directeurs, soit dans le système confessionnel, soit dans le système privé laïque, c'est que le gosse ou le détenu, fille ou garçon, puisse prétendre à un autre statut social que celui d'être, puisque les textes sont clairs, domestique ou garçon de ferme. Il ne faut pas leur donner non plus une éducation qui peuvent leur faire atteindre une fonction ou un statut social supérieur à quelqu'un qui n'aurait pas commis de délit. Et c'est vrai que c'est à longueur de texte, il ne faut pas que le gosse, quand il puisse prétendre à quelque chose de supérieur que quelqu'un qui serait dans la liberté, en quelque sorte. Il faut quand même... Et il faut pas que le môme, il ait des conditions même de nourriture supérieures à celui...
Des pauvres
qui, eux, travaillent. Oui. Il y a quelques corrections, quand même. Par exemple, les jeunes filles qui étaient condamnées dans certaines institutions, on avait... Ça, c'est sous le Second Empire. On avait parfois la détestable habitude, dans certaines institutions, qu'elles soient totalement... qu'elles aient le crâne totalement rasé. Le résultat, c'est que quand elles étaient libérées, ben, elles étaient tellement marquées par ça qu'il fallait attendre des mois qu'elles retrouvent une chevelure normale. Ce qui fait que j'ai trouvé un texte disant il faudrait que, pour les garçons, c'est un peu le cas, que quelques mois ou quelques semaines avant le temps de libération, leur permettent, en particulier pour les filles, que les cheveux repoussent de façon à ce qu'elles ne soient pas stigmatisées si elles prétendent ne serait-ce qu'à un travail de domestique. Et en plus, une domestique au crâne rasé, c'était pas... Et alors on le dit aussi pour les garçons, parce que c'est une époque qu'on a un peu oubliée, mais un garçon qui n'a pas de moustache, c'est pas possible en 1880. C'est Il lui faut la pilosité. Or, ils n'ont pas le droit de l'avoir à 17, 18, 18 ans dans ces colonies pénitentiaires. Donc, j'ai trouvé des textes où on dit, bon, avant qu'ils ne soient libérés, on peut leur laisser pousser un peu la barbe et la moustache, parce qu'ils sont marqués comme, si, comme du temps des galériens quand ils avaient un fer rouge. On voit bien comment ce système est obsédé. Il faut que le délinquant même, enfin le jeune délinquant même sorti à l'âge adulte, alors souvent certains, en particulier dans l'Ouest, peuvent s'engager comme matelots dans la marine. Ça va, parce que la discipline dans la marine, c'est à peu près celle dans les camps de pénitentiaires ou autres.
Alors on voit bien aussi comment votre ouvrage fourmille de précisions, de détails, mais en même temps à une dimension globale qui nous questionne sur le sens de ce système qui très souvent est complètement absurde et aussi profondément tragique dans bien des cas. Comment vous ressuscitez des destins individuels aussi, des enfants, des adultes, et comment vous nous aidez à nous poser des questions, parce que les séquelles de ce système, qui a quand même duré plus de 2 siècles, persistent encore aujourd'hui. Hein ? Oui, à bien des égards.
C'est un peu ce que je disais, qui reste pour moi une interrogation. Comment se fait-il que la France, qui a parfois été, c'est vrai, en avance sur un certain nombre de choses, me semble être si en retard, et encore aujourd'hui, sur ces problématiques. Alors, moins quand même, malgré tout, sur les mineurs, parce qu'il y a l'ordonnance de 1945 qui a quand même changé beaucoup de choses. Et il y a un mouvement qui commence quand même. L'une des grandes dénonciations... Alors il y a eu les dénonciations du bagne, mais c'est vrai que la dénonciation des colonies pour enfants, enfin comme Maitrey ou autres, a été un grand mouvement populaire du front du même nom. On sent que la presse, certains journalistes se sont battus, ont dénoncé ces conditions. Il y a eu des manifestations, des réunions avec des milliers et des milliers de personnes. Il y a un moment, le corps social, ça c'est aussi... ne supporte plus un certain nombre de choses. On le voit dans d'autres domaines, mais on voit bien que dans les années 1930, la société française, pas les élites, hein, pas les magistrats, il y a une sorte d'élan populaire, à une époque aussi, ne l'oublions pas, où la démographie de la France a beaucoup diminué, les enfants sont rares, donc il y a une attention aux enfants et aux mineurs qui fait que ces bagnes d'enfants, comme on disait, on ne les supporte pas. Et ça dépasse ce qui m'a beaucoup frappé en archive, c'est que ça dépasse les régimes politiques. On voit bien comment le Front populaire commence un certain nombre de réformes.
Et c'est De Gaulle qui...
Non, c'est Vichy.
En 53, c'est De Gaulle.
Oui, mais pour les bagnes d'adultes. Mais pour les enfants, par exemple. Les mesures que commence à prendre le Front populaire... ne sont non seulement pas mises en cause. Alors je parle bien de la délinquance juvénile et de cette répression. Ne mélangeons pas les registres. Mais les fonctionnaires du ministère de la Justice de Vichy, qui sont parfois les mêmes que ceux du Front populaire et qui vont être les mêmes en 1945, ont à l'égard de la délinquance juvénile à peu près le même regard. C'est-à-dire que la politique de la jeunesse du maréchal Pétain et tout le discours qu'il y a sous Vichy sur la protection de la jeunesse... Alors évidemment, c'est les chantiers de jeunesse et autres. Mais il n'empêche qu'on voit très bien... Et ça, évidemment, là, il faut aller vers les archives, comment l'ordonnance de 1945 sur l'éducation surveillée, etc., enfin l'amélioration de la justice pour mineurs, est préparée sous Vichy. Elle est préparée sous Vichy. C'est les mêmes fonctionnaires qui continuent à travailler sous Vichy. Et c'est un cas très particulier dans un régime, évidemment, qui n'a pas été des plus tendres, mais qui, à l'égard des problématiques de la jeunesse délinquante, poursuit... Vichy, en plus, ça ne dure que 3 ans, hein, 2-3 ans, véritablement. Donc, mais on voit comment, là, il n'y a pas de rupture, et jusqu'à 1945. Il y a 10 ans, de 36 à 45, où on prépare, au moins dans ce domaine, l'amélioration de la condition des jeunes délinquants. On a mis fin aussi aux excès de la justice militaire. Il y a quand même des progrès qui sont faits pendant toute cette période. Et puis en 1938, on arrête d'envoyer des adultes en Guyane. Donc on est sur des améliorations, mais on a des améliorations sur un système qui est tellement en retard par ailleurs qu'en gros, si je vais à gros traits, j'ai l'impression que ce retard pris au 19e, on ne l'a jamais vraiment rattrapé.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Michel Pierre, et bonne lecture à tous.